Vous écoutez le programme du studio Kalangou, il est 18h à Niamey, le journal en français avec Rukaya Topdraman. À la une de cette édition, à Agadez, 198 attestations de demande d'asile remises à des réfugiés soudanais après de longs mois d'attente. Dans le département de Gaya, le nouveau mil est récolté dans certains villages. Ce nouveau mil reste cependant rare sur le marché des précisions avec le directeur de l'agriculture de Gaya. La partie magazine de cette édition portera sur une formation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR destinée aux autorités administratives de Maradi sur la prise en charge des réfugiés nigériens la semaine dernière. Mercredi 14 août 2019, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Pour des raisons sécuritaires, Médecins sans frontières, qui a suspendu ses activités depuis avril, à Meynesoroa quitte la ville. Pour rappel, le 26 avril dernier, son bureau local a été l'objet d'une attaque ayant occasionné un blessé et des dégâts matériels. Joint au téléphone ce matin, le chef de mission de MSF Niger indique que l'institution continuera tout de même à assister les populations de la région de Diffa dans d'autres localités. Abdelaziz Mohamed.
Le 26 avril dernier, des individus non identifiés avaient attaqué notre bureau à Meynesoroa. Nous avons eu des véhicules et du matériel logistique qui avaient été détruits et un de nos gardiens avait été blessé légèrement. Après, nous avons suspendu nos activités pendant tout le mois de juillet pour un peu comprendre et analyser la situation. Mais jusque-là, on n'arrive pas à identifier pourquoi et qui a fait cet acte-là contre nos bureaux. Du coup, pour la sécurité de nos staffs et de nos opérations, nous nous sommes résolus à fermer le projet de Meynesoroa. Médecins sans frontières va continuer ses activités sur Ngigmi notamment et Diffa. C'est juste le projet de Meynesoroa qui a été fermé. Sinon, sur les autres projets, les activités continuent comme et ce sont des activités pour assister les populations qui sont victimes de la situation qui prévaut dans la région.
Propos recueillis par Moussa Hassan. 198 attestations ont été délivrées aux demandeurs d'asile soudanais d'Agadez après 3 mois de travail du comité d'experts mixte composé du niveau national et régional. Ce comité a travaillé sur plus de 200 dossiers de ménage de demandeurs d'asile soudanais. Pour rappel, ces réfugiés soudanais ont organisé des manifestations dans les rues d'Agadez pour protester contre ce qu'ils appellent la lenteur dans le traitement de leurs dossiers. Yacouba Soukeridjou, directeur régional de l'état civil migration et réfugiés au micro d'Anissé Karim.
Le comité a déposé son rapport. Nous avons convoyé les dossiers au niveau de la commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié de Niamey qui a effectivement eu à délivrer et envoyer 198 attestations de dépôt de dossiers que nous avons remis aux bénéficiaires. Cela dénote que les travaux se poursuivent. C'est vrai, les gens ont l'impression que c'est lent, mais tout cela est dû vraiment à la difficulté du travail pour aller du cas au cas. Donc à ce jour, 198 attestations ont été délivrées et remises aux bénéficiaires pour ce qui concerne les demandeurs d'asile soudanais.
Certains villages du département de Gaya ont commencé la récolte du nouveau mil qui n'est autre que le mil Hatif, l'une des deux particularités de mil qu'on retrouve dans la localité. Selon Idrissa Abdou, directeur départemental de l'agriculture de Gaya, pour le moment, ce nouveau mil est rare sur le marché. Il est joint au téléphone ce matin par Rafikata Taher.
Sur le marché, je ne sais pas de dire, mais quand même, il y a des villages qui ont commencé à récolter. C'est le mil Hatif. Et Géoro a aussi ou bien Heineken en Allemagne. La particularité de Gaya, c'est qu'il y a le mil Hatif, il y a le mil Cardiff. Mais ce n'est pas sur les producteurs. Hein.
Il y a une possibilité que ce mil soit sur les marchés. Si oui, est-ce que ça a un impact sur le prix des céréales?
Déjà, avec le programme de vente à prix modéré, le mil a gardé vraiment une stabilité. Et sûrement maintenant, avec la sortie aussi sur le marché du nouveau mil, sûrement que le mil s'est aussi déçu. Mais pour l'instant, vraiment, on ne voit pas ça tellement sur le marché. Comme le mil est à récolte, il faut le sécher d'abord. Tout comme si maintenant, l'emballer et l'amener sur le marché.
La commune d'Agadez vient d'imposer une nouvelle réglementation aux conducteurs de taxis tricycles appelés Adeidet Sahou. Désormais, ces conducteurs ont l'obligation de se faire identifier à la mairie et prendre une autorisation au niveau de leur syndicat pour exercer la nuit. Les raisons de cette décision avec Aboubakar Adjoual, maire par intérim de la commune d'Agadez, au micro d'Anissé Karim.
Ce qui nous a motivé en tout cas à prendre ces mesures, donc la première, c'est la mesure sécuritaire. Un certain temps, quelqu'un a pris contrôle, a été pris avec une arme. C'est des indices qui nous met mal à l'aise. Aujourd'hui, si nous prenons cette disposition, vraiment c'est pour protéger la population. Dieu merci. 90% de ceux qui font cette activité, ils ont accepté. Le moment où ils sont venus à la mairie, ils ont été recensés, identifiés. On a leur photo, leur numéro et leur numéro de saisie. Et une deuxième organisation, on a demandé donc à tous ceux qui veulent faire leur activité dans la nuit, de passer informer le syndicat afin maintenant de transmettre une liste au niveau du commissariat. Ça veut dire à partir de 10h à 5h du matin ou à 6h du matin. Donc si on prend quelqu'un avec sa moto, ceux qui font la patrouille, ils vont vérifier si effectivement s'il est pris en compte.
S'il y a une activité rentable pour la jeunesse de Madawa, eh bien c'est la récupération ou le recyclage des objets usés. Une activité génératrice de revenus pour les jeunes désœuvrés de la commune, une œuvre aussi qui contribue à la protection de l'environnement. Maman Kabiru Tukur, un jeune de Madawa qui s'est adonné à cette activité, témoigne au micro de notre envoyé spécial Maman Ada.
C'est une opportunité que le Tout-Puissant a offert à la population pour gagner son pain. Nous achetons tout. Nous achetons de vieilles chaussures en plastique, des bidons, de la vieille ferraille, quelle qu'en soit sa nature. En fait, c'est une autre façon pour nous d'apporter notre contribution pour évacuer les déchets dans la ville. Par exemple, par ta présence ici, certainement tu te rends compte que nous travaillons plus que certains travailleurs chargés de faire la voirie de la ville. Depuis les années 90, voire avant, ici, dans cette ville, si tu circules, tu trouveras de la ferraille partout. Pour ceux qui font ce type de travail, l'État doit les accompagner et faire appel à eux pour les encadrer de façon officielle.
Encourager les jeunes, particulièrement les filles, à apprendre les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques est la lutte que mène Salissou Hassan Latifa, une jeune ambassadrice du numérique au Niger. Couronnée Miss Geek Africa ou génie du digital en 2018, Latifa espère le soutien de l'OIF après la conférence de N'Djamena de juin dernier pour sensibiliser les jeunes filles nigériennes des milieux défavorisés à embrasser le domaine du digital.
Ma contribution au niveau de cette conférence-là, c'est de parler de l'éducation des filles dans le domaine des STEAM. Les STEAM, c'est tout simplement la science, la technologie, l'ingénierie et puis les mathématiques. Parce qu'on parle de l'éducation de la jeune fille, mais aussi il faut parler de ces jeunes-là dans le domaine des STEAM pour qu'ensemble qu'on puisse voir quelles solutions on peut amener à ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent embrasser ces domaines des STEAM. Parce que très malheureusement, un constat assez fort, elles n'osent pas, elles ne veulent pas, elles se disent que c'est pour les hommes, elles ont des complexes sur ce domaine-là. Donc, il faudrait voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour un peu booster ces jeunes dans ce domaine. Avec l'appui de l'OIF, on espère qu'on puisse passer à des séances de sensibilisation pour que ces jeunes filles arrêtent de trouver que les domaines d'estime étaient réservés aux hommes. Après, il faut aussi qu'elles aient des modèles, qu'elles voient des jeunes qui ont réussi dans ce domaine-là. Et après aussi, il faudra les coacher, les suivre jusqu'à ce qu'elles y arrivent et qu'elles y restent.
Propos recueillis par Rahila Toussoumana. En ce jour, mercredi 14 août, quatrième jour de la fête de Tabaski, le musée national Boubouhamma continue d'enregistrer des visiteurs. Ils sont nombreux les plus jeunes qui affluent pour regarder les spectacles des artistes ou pour voir les animaux. Écoutons les explications de Madame Nyandou Kadi, la communicatrice du musée national, au micro de Habib Garba.
Les enfants, une foule au sein du musée national, c'est dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski. Et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est-à-dire au quatrième jour de la fête. Et les enfants sont là parce que les manifestations continuent. Les activités prévues pour les manifestations, il y a les activités de plein air, ce sont les animations avec les orchestres, avec les groupes musicaux, avec les groupes de Dandelin Soyeya. Il y a une multitude de jeux qui est proposée aux jeunes. Et à travers ces jeux, c'est comme une kermesse. Les jeunes gagnent des petits cadeaux avec lesquels ils rentrent à la maison. Maintenant, la sécurité, parce qu'il a, on a pris les gardes nationaux. Et du premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils nous envoient chaque jour une cinquantaine. Et en dehors de ça, il y a les sapeurs-pompiers.
La pâte d'arachide, appelée tigadigé en Hausa et Jarma, est très utilisée dans la cuisine africaine. Maïmouna Sadi, productrice et vendeuse de pâte d'arachide à Birningaouré, explique au micro de Gungu Maman Dantani le processus de cette production.
Nous décortiquons les graines d'arachide. Ensuite, nous procédons à leur cuisson. Il y a deux types de cuisson. Dans l'extraction d'huile, nous dépouillons la couche qui enveloppe les graines d'arachide. Et pour le processus de la pâte d'arachide, nous laissons la couche enveloppante de l'arachide, puis nous lui ajoutons du sel pour l'amener au moulin. Et c'est là que nous obtenons la pâte d'arachide. En ce qui concerne l'huile, nous élevons la couche enveloppante, puis nous amenons les graines d'arachide au moulin. Nous ramenons le produit obtenu à la maison pour le piler dans un mortier. Nous faisons bouillir de l'eau que nous ajoutons au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'huile. Nous perçons et tamissons la pâte assortie pour avoir de l'huile uniquement. Et c'est là que nous obtenons l'huile à part et la pâte à part. Nous découpons la pâte en morceaux. Nous les mettons dans une moule contenant de l'huile que nous plaçons au feu jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Puis nous les retirons et c'est ça le tourteau d'arachide ou coulicouli en langue nationale.
En partie magazine de cette édition, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a organisé la semaine dernière à Maradi une journée de formation sur la protection internationale à l'intention des autorités administratives communales et organisations de la société civile des localités où environ 35 000 réfugiés nigériens séjournent. L'objectif de cette rencontre est de les outiller sur les termes des conventions ratifiées par le Niger en matière de protection internationale des réfugiés. L'assistante de la représentante du HCR au Niger, Muhim Poundou, Yvette, au micro de Mohamed Mama.
C'est pour permettre aux autorités administratives et communales des départements de Guinea-Rumchi et de Madarofa de la région de Maradi qui accueillent les réfugiés nigériens d'internaliser les conventions sur les réfugiés que le HCR a organisé cette formation sur la protection internationale. Yvette Muhim Poundou, l'assistante de la représentante du HCR.
Depuis le mois de mai, on enregistre un grand nombre de réfugiés qui viennent du Nigeria, principalement à Zamfara, Sokoto, Katsina. Et ces populations, mais une fois traversées la frontière, ces personnes sont bien accueillies et par la communauté hôte, et par les autorités, et par la communauté humanitaire, la société civile qui se trouve ici au Niger. Et l'objet de cette formation, c'est de voir alors comment chacun peut jouer son rôle comme il faut pour protéger ces personnes. C'est rappeler les principes qui nous guident. Vous savez que le Niger a signé les conventions sur la protection des réfugiés. C'est sur base de ces conventions qu'on est en train de faire cette formation.
Quelle est l'importance de cette formation, effectivement, pour les autorités nigériennes, surtout des communes concernées par cette question des réfugiés?
En signant les conventions sur la protection des réfugiés, le gouvernement du Niger s'est engagé à assurer la protection de toutes les personnes en besoin de protection. Et comment cette protection se traduit? C'est à travers ces autorités où les réfugiés arrivent. C'est eux qui assurent que ces réfugiés sont bien accueillis, sont à l'abri, ont des accès aux services de base, puissent jouir de leurs droits, le libre mouvement et se reconstruire dans la dignité.
Faites-nous un peu la situation de ces réfugiés dans la région de Maradi.
Les réfugiés au niveau de Maradi sont arrivés en grand nombre depuis le mois de mai 2018. À l'heure d'aujourd'hui, on dénombre 35 000 réfugiés nigérians qui se trouvent dans trois communes au niveau de la région de Maradi. Et la grande majorité sont des femmes, des enfants, et qui ont perdu leur protection sociale, leurs époux, leurs frères, et ils ont besoin d'une protection pour garantir vraiment leur résilience.
Madame, comment se portent ces réfugiés, comme vous avez surtout fait un tour hier?
Ces réfugiés ont été bien accueillis. Ils sont accueillis par la communauté. Mais on doit dire que ces communautés hôtes qui les accueillent aussi se trouvent dans une vulnérabilité. D'où l'importance d'organiser dans les meilleurs délais leur relocalisation.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.